podcast de l'UA. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez See More Blue, un podcast rattaché au séminaire de recherche du même nom, qui est basé à l'Université d'Angers. Je m'appelle Béné Meillon et je suis professeure des universités à l'UA à Angers, où je suis responsable scientifique du séminaire de recherche interdisciplinaire See More Blue. Alors pour l'année 2024-2025, je suis entourée pour la conception de ce podcast de deux jeunes chercheuses, Valentine Porcil, doctorante à Nantes Université, et Lucie Véju, étudiante en deuxième année du master Humanité environnementale à la NU également, et stagiaire à l'UA, dans le cadre du séminaire de recherche See More Blue, sur lequel repose donc la réalisation de ce podcast. Dans ce podcast, comme dans le séminaire de recherche éponyme, nous nous intéressons aux perceptions, aux représentations et aux imaginaires de l'eau, des mers et des océans. Pour ce faire, nous analysons des récits, des imaginaires et des représentations qui émergent de la littérature et des arts, mais également des sciences humaines, des études culturelles et des sciences dites du vivant. Nous convions ainsi des chercheurs et des chercheuses dont les travaux relèvent de disciplines variées à venir nous parler d'imaginaires océaniques et aquatiques pour plonger avec elles et eux dans des mondes bleus et pour bleuir ainsi notre compréhension du monde. Pour plus de détails sur les objectifs de ce podcast et le contexte dans lequel il évolue, nous vous invitons à écouter l'épisode pilote que vous trouverez en ligne. Alors aujourd'hui, je suis avec Valentine et nous accueillons William Pilot, qui est maître de conférence à l'unité mixte de recherche TEMOS à l'Université d'Angers, pour le deuxième épisode du podcast See More Blue, consacré aux imaginaires de la mer et de l'océan, peut-être plus largement de l'eau, on va voir ça aujourd'hui, dans l'Antiquité, plus précisément dans la culture grecque. Bonjour William.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, par rapport à tes travaux, pourquoi il te semble intéressant aujourd'hui de se pencher de nouveau sur les mythes grecs du point de vue de l'océan ?
Alors, de manière générale, je pense que les mythes grecs ont à nous apporter, comme ils l'ont toujours fait, sur notre rapport au monde, notre rapport à la vie, et donc, plus particulièrement, notre rapport, en l'occurrence, à l'océan, à la mer, à l'élément liquide en général. Les mythes ont ceci de particulier qu'ils donnent à voir des imaginaires ancrés dans des civilisations ou des sociétés différentes de la nôtre, mais qui nous parlent encore. Puisqu'ils ont une dimension d'universalité qui nous touche et qui nous amène éventuellement à décentrer notre regard par rapport au monde qui nous entoure et aux perceptions, souvent impensées, qui biaisent notre sensibilité.
Oui, pour rebondir sur cette idée justement que les mythes grecs nous donnent à voir des imaginaires qui nous parlent encore, j'avais vraiment cette question, en quoi l'essor du domaine de recherche des humanités bleues finalement vous a permis de porter un regard nouveau sur votre recherche ?
Alors, humanité bleue ou humanité verte, comme ici nous sommes sur la passerelle d'Augustin Berck, j'aimerais citer ses travaux et ceux de son collègue Jacques Gernet qui, lorsqu'il réfléchissait à la façon dont les couleurs pouvaient être décrites en occidentaux dans le monde chinois, il prenait le terme Tsing. Tsing, c'est bleu-vert. C'est une manière pour moi de botter un peu en touche. Et donc, les humanités vertes bleuies, ou les humanités bleues avec ce qu'elles conservent de vert, ça nous amène tout de suite aux difficultés hein, de nommer par le chromatisme un rapport spécifique au monde. Moi, m'ont beaucoup apporté dans la mesure où, venant d'une histoire très classique, hein, j'ai lu des travaux d'anthropologues, d'ethnologues, de sémiotiques aussi, qui m'ont invité en fait à repenser toute une partie des catégories qui structuraient en fait ce que j'appelais le monde grec antique et qu'on m'avait enseigné tel quel. Vous savez, avec cette idée, les Grecs ont tout inventé, nous en sommes les héritiers, tout va bien, c'est très rassurant, c'est très valorisant. Et puis à un moment, le monde flanche, surtout dans le contexte de crise écologique que nous traversons, les certitudes chancellent, et on est obligé d'aller voir les textes. Comme toujours, dans tous les moments de crise, on retourne vers les textes, on pose des questions de traduction, et donc c'est ce que moi m'ont apporté, les humanités bleues et les humanités vertes, que je mettrais du coup dans le même bloc, hein, l'éco-critique que j'ai découvert, notamment à l'Université d'Angers, grâce au... Ça, c'est l'intérêt des discussions avec les collègues. Hein, avant l'arrivée de Bénédicte Meillon, Bertrand Guest, par exemple, Anne-Rachel Hermetet, ce sont des collègues qui, en discutant avec eux, en fait, m'ont sensibilisé à ces questions. Et bon, après, évidemment, dans le programme de recherche Hésiode, qui était déjà financé par la Maison Sciences Humaines Ange Guépin, nous avons eu l'occasion de travailler avec, justement, des chercheurs en éco-critique, comme Bertrand Guest déjà, et donc de mettre en commun ces réflexions qui nous ont enrichis, effectivement.
Tu nous prépares déjà la transition vers un des prochains épisodes où nous aurons la joie d'accueillir Bertrand Guest qui nous parlera de ses travaux.
Que je salue.
Alors, pour en revenir au mythe grec, dont il me semble peut-être qu'aujourd'hui on peut en proposer des lectures éco-critiques, éco-poétiques, est-ce que tu peux peut-être revenir sur les mythes grecs les plus importants, des figures de divinités notamment, qui ont trait au monde de l'eau?
D'abord, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Hein. Il existe plusieurs théogonies dans la tradition grecque antique, c'est-à-dire plusieurs récits de l'origine des dieux, donc de l'origine du cosmos, du monde. On parle de cosmogonie aussi. Parmi celles-ci, il en existe certaines qui placent l'eau, et plus précisément l'océan, à l'origine du monde. Alors, ce ne sont pas forcément celles qui l'ont emporté, qui sont donc les plus connues, ce n'est pas forcément celles que le grand public va avoir en tête. Ce n'est pas, par exemple, celle qu'on trouve dans la théogonie d'Hésiode, mais dans les traditions orphiques et dans les lectures philosophiques qu'on a pu avoir ensuite dans l'Antiquité classique de ces cosmogonies, on trouve des traces d'un élément liquide et d'une figure, donc divine, Okeanos, à l'origine du monde. Par exemple, si on cherche, c'est un travail qui a suscité beaucoup de débats historiographiques, si on cherche quelle est la cosmogonie d'Homère dans les poèmes homériques, on s'aperçoit qu'elle est différente de celle d'Hésiode et que l'océan est au centre. Alors au centre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont les soubassements du monde? Est-ce que c'est l'origine chronologique? Est-ce que la Terre flotte sur un flot qui est aussi source de vie? Vous voyez, ce sont des questions complexes. En tout cas, pour commencer, il y a cet Okeanos qui s'est peu à peu effacé à l'époque classique, mais qui est une divinité primordiale. Source de vie, socle du monde, frontière infranchissable, lieu qui sépare le monde des vivants du monde des morts, et d'une certaine manière le monde des mortels du monde des immortels, ce qui n'est pas incompatible. Donc c'est dire que effectivement, bon, bah, l'eau peut être considérée comme au centre de certaines cosmogonies grecques. Ce qui n'est pas pour nous surprendre, hein, si on remet ces mythes, il ne faut pas en avoir une vision éthérée en l'air, dans les sociétés qui les ont produits. Bon, ce sont des sociétés où la mer est partout, ce sont des sociétés évidemment de marins, de pirates, de commerçants, de voyageurs, de colonisateurs. Quand on est en Grèce, on est toujours entre terre et mer, hein. La mer n'est jamais loin, dès qu'on monte une petite colline, on voit la mer. De même d'ailleurs, hein, quand on est sur mer, on voit toujours la terre, c'est une navigation par cabotage. Donc c'est inextricable. Et c'est ce qui explique sans doute que les autres cosmogonies qui mettent la terre au centre, qui nous intéressent moins aujourd'hui, mais qui m'intéressent par ailleurs, ont pu être en dialogue avec ces cosmogonies qui mettent l'eau au centre. Alors, je parlais des lectures philosophiques qui ont pu proposer une sorte d'analyse rationnelle, donc ce qu'on appelle les physiologues, hein, donc ceux qui font des logoi, des discours sur la physis, la nature. Eh bien, certains, comme Anaximandre, disent bah, l'élément central du monde, ou Thalès, hein, Thalès de Milet, qui est plus connu, Thalès, Anaximandre disent bah, c'est, voilà, l'eau est l'élément premier et c'est l'élément qui structure la physis. Alors, l'histoire d'ailleurs du monde, c'est l'histoire de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de l'eau, c'est une chose qui nous parle aujourd'hui, hein, d'un point de vue écologique. Il y a un cycle de l'eau, il y a une évolution générale aussi de l'eau, de l'état, disons, liquide vers un état gazeux. Donc c'est vraiment l'eau au sens H2O, hein. C'est pas seulement l'élément liquide. Et donc, par exemple, on peut lire chez certains présocratiques que le devenir du monde, c'est un assèchement général, et donc ça va avec la vision eschatologique de la fin de la vie. La fin de l'eau serait la fin de la vie. Ça aussi, ça peut nous parler, évidemment, aujourd'hui, quand on relit ces textes fragmentaires de l'époque archaïque, on a l'impression qu'ils sont évidemment dotés d'une certaine actualité. Mais votre question portait peut-être aussi sur les, disons, les figures de divinité qui ensuite se substituent à cette figure primordiale et à cet élément. Alors là, évidemment, il y a Poséidon, par exemple.
Oui, le plus connu.
Voilà, Poséidon, c'est celui auquel on pense. Hein. Alors, le Poséidon, disons, de Percy Jackson, c'est-à-dire que voilà, il a un trident, il est dans l'eau, bon, il a une barbe, voilà. Et là aussi, c'est très rassurant. Bon. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il est notable que Poséidon, hein, ses premières occurrences, ses premières épiclèses, c'est l'ébranleur des sols. C'est une unité terrestre, hein. Ça peut surprendre, mais Poséidon est une unité terrestre. Et en fait, le fait de bouger, hein, de faire des séismes, eh bien, ça crée une interaction entre la mer et la terre. Donc Poséidon, il est la divinité de l'interaction entre la mer et la terre. Ce qui plaît aux Grecs, puisque les Grecs sont toujours entre terre et mer. Donc son trident, c'est ça, hein, il le plante dans la terre, pas dans l'eau, hein, et il crée un séisme, et de ce séisme peut jaillir de l'eau, qui peut être effectivement un raz-de-marée type tsunami, ce que les Grecs connaissent très bien, ils connaissent le pouvoir destructeur de ces séismes. Ça peut être aussi une eau claire, qui est une fontaine et qui est source de vie. C'est la pégée, la source, qui donne son nom à Pégase. Pégase, on le connaît comme cheval ailé, mais son pouvoir principal, c'est qu'avec son sabot, paf, il tape le sol, et de l'eau claire en jaillit. Et donc lui est une créature liée à Poséidon, justement. Donc voilà, il y a Poséidon qui vient en tête tout de suite, mais qui est tout sauf simple, en fait. Hein. Et puis, il y a donc dans les enfants monstrueux de Gaïa, et donc dans la cosmogonie hésiodique cette fois, dans la théogonie d'Hésiode, cette entité qui s'appelle Pontos. Pontos, donc on peut traduire par la mer, hein, c'est un autre terme peut-être moins connu que Thalassa ou Thalata. Hein. Et Pontos, eh bien, c'est une divinité qui engendre des monstres, justement. Là, c'est l'une des spécificités aussi que ces divinités, disons, marines, partagent avec des divinités terrestres telles que Gaïa, c'est qu'elles ont une sorte de... Alors le terme qu'on emploie, à mon avis, est malheureux, de parthénogenèse, c'est-à-dire que la Vierge qui enfante, c'est en principe masculin, c'est le type, ça ramène Gaïa et Pontos à la Vierge Marie, je pense qu'on est très très loin de ce qu'il faut penser, à mon avis. Mais c'est plutôt, en fait, une puissance de génération spontanée que la mer partage avec la terre. C'est-à-dire que, par exemple, les humains naissent de la terre, ils sont autochtones au sens étymologique, et de la mer naissent quoi ? Naissent des monstres, justement. Des monstres, alors qu'ils sont vraiment monstrueux par leur taille, leur férocité, la multiplication de leurs membres. Donc, ils sont en dehors de l'ordre olympien et de l'ordre humain. Ils sont terrifiants, ils sont combattus par les dieux et les héros, mais ils ont un rôle cosmique très important. Et puis, Pontos, c'est la mer née de Gaïa et qui elle-même engendre toute une série de monstres, comme ça. Et parmi, donc, parmi ces créatures qui peuvent être monstrueuses et qui naissent du flot, il y a Aphrodite. Oui. Et ça, c'est le grand paradoxe, hein, c'est que cette monstruosité, elle est aussi accompagnée de cette divinité de l'amour, de la beauté, née de l'écume. Hein, c'est un thème, évidemment, qui a traversé toute l'iconographie moderne. Hein, on a en tête de fameux tableaux, bien sûr. Voilà. Mais elle est dans cette série de monstres. Et elle est aussi dangereuse, Aphrodite, bien sûr, que ces monstres qui ont été engendrés par Pontos. Donc vous voyez, à chaque fois, ça permet de pointer, je dirais, l'ambiguïté fondamentale de cet élément marin, aquatique, humide, à la fois fascinant, à la fois monstrueux et toujours omniprésent.
Et tu as mentionné Thalassa. Est-ce que tu peux nous situer, s'il te plaît, Thalassa par rapport à Pontos dans cette cosmogonie ?
Oui, alors Thalassa, à la différence de Pontos qui désigne une divinité ou donc un concept divinisé, comme souvent dans la théogonie d'Hésiode, Thalassa c'est vraiment un terme géographique. C'est la mer, c'est l'étendue maritime. Pierre Chantraine, à l'époque, hein, qui est le grand maître de l'étymologie grecque, avait réfléchi sur les origines grecques ou non grecques de Pontos et de Thalassa respectivement. Parce que c'est vrai que c'était étonnant d'avoir ces deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui coexistent, hein, tout au long de la longue histoire grecque. On a des mers qui sont désignées par Pontos, comme le Pontos Euxinos, le Pont Euxin, ce qu'on appelle nous la mer Noire. Donc ça peut aussi être une appellation géographique. Et puis on a des mers, évidemment, qui sont désignées par Thalassa. Mais donc les deux coexistent. Alors donc Thalassa, on peut la mettre de côté dans ses affaires de divinité, disons, elle, ce n'est pas une divinité, c'est la mer sur laquelle on navigue. C'est la mer qui rassure le grec, hein, lorsque dans l'Anabase de Xénophon, lorsque les 10 000 terminent leur remontée, donc hein, c'est ce que signifie Anabase, ils sont partis du cœur de la Mésopotamie et ils arrivent au littoral, ils voient la mer, Thalassa, Thalassa, c'est ce cri fameux. Donc c'est vraiment la mer qui veut dire qu'on va pouvoir rentrer chez soi, on va pouvoir construire des navires, et puis en bon grec, à partir du moment où on a la mer, on peut rentrer chez soi. Même si ça peut prendre des années comme Ulysse, mais c'est toujours, voilà, on est sur la mer et on finit par rentrer chez soi. Donc je dirais que c'est Thalassa, la mer. Voilà, pour faire simple. À la différence de Pontos, qui est du coup autre chose, qui est le flot, et puis cette divinité monstrueuse qui engendre, enfin qui est dotée d'une capacité. Voilà.
Si on repense à Okeanos, qui est vu donc comme une sorte le fleuve primordial finalement, et est-ce qu'on pourrait l'envisager, surtout qu'il est souvent représenté comme un bandeau circulaire, donc est-ce que c'est le cycle de l'eau lui-même, ou est-ce que cette circularité c'est aussi une forme de cyclicité?
Oui, alors on pourrait dire qu'Okeanos est le cycle de l'eau, c'est intéressant comme lecture, évidemment, donc ce serait la lecture qu'on en ferait, disons, en termes naturalistes. Okeanos, en termes mythologiques, c'est un titan. Donc il s'inscrit dans une généalogie, c'est un titan parmi d'autres, il est quand même le premier d'entre eux, c'est notable, hein. Et son épouse est la dernière d'entre eux, d'entre les titanides, Tétis. Okeanos a aussi cette particularité qu'il est un titan qui ne partage pas le destin des autres puisqu'il ne se joint pas à la révolte des titans. Il reste à l'écart, ce qui lui permet justement de ne pas être dans le Tartare, donc ça explique qu'il reste dans le monde géographique, il n'est pas dans l'au-delà. Et c'est ce qui fait par exemple que lorsqu'il discute avec Prométhée, dans la tragédie classique, eh bien, il est un peu raillé, parce qu'en quelque sorte, c'est une figure de traître. Il n'a pas rallié ses frères. Et lorsque Prométhée est châtié par Zeus, Okeanos essaye d'aller le consoler, et Prométhée, en fait, l'envoie bouler quand même. Mm-hmm. Il dit, rentre chez toi, c'est-à-dire au pourtour du monde, là-bas. Donc, c'est un titan à part aussi. Mm-hmm. Et alors après, il y a un devenir d'Okeanos, et notamment dans la tradition, disons, géographique, hein, Okeanos devient la mer extérieure. C'est-à-dire qu'il y a la mer Méditerranée, enfin c'est Thalassa, hein. Et puis lorsqu'on franchit les colonnes d'Héraclès, on arrive dans l'océan, hein, exactement, c'est pour ça qu'on a ces distinctions, nous, mer-océan, hein. On arrive dans l'océan qui est la mer extérieure, celle du pourtour du monde en effet. Maintenant, est-ce que, pour rebondir sur la question, est-ce que c'est le cycle de l'eau? On peut l'envisager dans la mesure où effectivement Okeanos est aussi le père des fleuves. Et puis il intervient dans une série de récits mythologiques locaux, on dit étiologiques, qui mettent en scène justement les interactions entre humains et fleuves.
Et c'est par rapport aussi à la lecture que tu nous avais proposée d'Eschyle, justement cette scène où Okeanos essaie de porter secours à Prométhée, ou en tout cas le rejoint, et tu nous avais lu ce passage où il est dit, alors c'est une traduction, je me souviens de la traduction, mais que Okeanos a quitté le fleuve sur les ailes du vent, quelque chose comme ça. Donc là, on est bien peut-être dans un phénomène d'évaporation et de changement d'état de l'eau qui, par un phénomène d'évaporation, a peut-être réussi à voyager jusqu'à Prométhée sous la forme de nuages. Peut-être.
Ah, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une lecture très intéressante, je pense, qu'on peut faire. Il y a d'abord cette dissociation entre ce fleuve que le pourtour qui est Okeanos et Okeanos qui arrive à s'en extraire. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Il voyage effectivement sur une entité complexe, hein, qui est une sorte d'oiseau ou de créatures qui volent, qui se déplacent, éthérées. Et il peut aller donc jusqu'aux hautes montagnes du Caucase, qui sont la source des cours d'eau. Donc effectivement, on peut avoir cette lecture, en effet, hein, de cycle de l'eau. Ça correspond aussi à des conceptions antiques, hein, sur le cycle de l'eau. Il y a Aristote notamment, mais Hippocrate aussi. On réfléchit à ces questions. La question des sources, qui interpelle toujours beaucoup les Grecs, hein, les sources du Nil, par exemple. Les sources peuvent se confondre avec l'océan. Donc ça nous paraît contre-intuitif, puisque nous, on a évidemment l'idée que le fleuve se jette dans l'océan, mais pour les Grecs, la source peut aussi être Okeanos. Par exemple, le Nil est un fleuve qui relie une mer à une autre. Mm-hmm. Et ces deux mers sont reliées par Okeanos, dans la géographie grecque antique. Qu'ils reprennent d'ailleurs des Égyptiens en partie, hein. C'est pas purement grec. On l'avait évoqué lors de la première journée d'études, hein. On pourrait aussi aller du côté des géographies mésopotamiennes, et on retrouve cette idée d'un fleuve qui entoure le monde, et ce fleuve communique par capillarité au-dessus et au-dessous, donc comme avec les nappes phréatiques, il communique avec l'ensemble du monde. Donc oui, il y a vraiment des cycles de l'eau en l'occurrence.
Et on pourrait presque même aller plus loin, ça, dans le mariage avec Tétis, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une représentation qu'on pourrait lire aujourd'hui à la lumière de ce que les scientifiques ont révélé sur la circulation thermohaline, donc cette circulation des grands courants océaniques à travers le globe, qui dépendent de thermohaline, donc de la température de l'eau, plus l'eau est froide, plus elle plonge en profondeur, et aussi de la densité de l'eau qui, en dehors de au-delà de sa température, dépend aussi de sa salinité. Mmh. Et en fait, on voit bien qu'il y a aussi, même dans l'océan lui-même, des courants qui sont plus ou moins salés.
Mmh, tout à fait.
Et cette histoire de mariage avec Tétis, c'est intéressant, et on se demande dans quelle mesure, est-ce qu'il est possible, en tout cas aujourd'hui on a envie de façon éco-poétique de le lire comme ça. Est-ce que Okeanos, c'est pas aussi peut-être cette circulation et du cycle de l'eau et de ce qu'on appelle thermohaline aujourd'hui, donc qui relie aussi l'eau de l'atmosphère au plus grand courant de l'océan, bon, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, avec notamment le risque que ce qu'on appelle la MOC, hein, ces grands courants, soit perturbé par le réchauffement global. Ça te semble pertinent de lire ça comme ça aujourd'hui ou...
Alors, bah oui, moi, ça me plaît beaucoup comme interprétation, et je pense que c'est la grande plasticité des mythes, hein. C'est ce que j'ai dit dans l'introduction. C'est-à-dire que le mythe garde une pertinence. On peut le lire de différentes manières, hein. Il a cette force d'acception, disons, cette capacité d'acception de différentes lectures, hein. Alors, est-ce que ça signifie que les Grecs de l'Antiquité avaient déjà connaissance de ces phénomènes? Ça, ce sont des questions complexes. Il faut évidemment être prudent. Mais il est vrai que bien souvent, que ce soit les sciences du vivant, que ce soit la géologie, que ce soit l'archéologie, on commence par un dédain, en fait, des savoirs traditionnels, hein. Là, je sors des salmis grecs, hein. Et puis finalement, on arrive à une sorte de confirmation, d'adéquation du moins avec ces récits traditionnels, hein, les tech traditional ecological knowledge, c'est des phénomènes qu'on voit souvent, hein, finalement, des sociétés traditionnelles, on leur enseigne tous les miracles de la science moderne, puis ils disent, bah oui, bah, on savait déjà, voilà, c'est ça,
poétique, voilà, le raconter,
voilà, donc ça c'est aussi ce qui fait et le chatoiement du monde et la pertinence de ces récits antiques qui ont encore des choses à nous dire. Ouais. Mm-hmm.
Alors, tout à l'heure, tu nous parlais des monstres marins engendrés par parthénogenèse, qui naissent de Gaïa. Et c'est le cas aussi des méduses et des autres gorgones. Est-ce qu'elles sont nées par parthénogenèse aussi?
Alors, il y a plusieurs versions. Quand il y a plusieurs versions, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Alors, il y a le lien avec Pontos, il y a le lien avec Gaïa, il y a le lien aussi. Alors, parfois, elles sont, en fait, comme souvent, on les rabaisse ensuite parce que sinon, ça fait des divinités qui sont primordiales. Elles sont au-dessus des Olympiens, au-dessus de l'ordre, disons, pour résumer, masculin, patriarcal, normé. Et du coup, c'est un peu gênant. Ces créatures qui sont plus anciennes et peut-être plus prestigieuses. Donc, parfois, on rabaisse complètement leur généalogie, mais c'est des traditions qui peuvent être plus tardives. Ce qui est intéressant dans ces figures, c'est qu'elles représentent donc des figures de monstruosité qui interagissent avec des héros et qui sont des marqueurs, à la fois des marqueurs géographiques, donc ça c'est la grande histoire de où se trouve Charybde, où se trouve Scylla, où vit Gorgone, bon voilà. Donc ça c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est une manière aussi de poser les choses. Et puis des marqueurs, disons, d'un point de vue plus structuraliste, dans la marche vers l'être. Pas forcément vers la situation, mais vers l'être, vers devenir soi-même, etc. Persée devient Persée parce que, justement, il affronte la Méduse. Et ensuite, la puissance de pétrification du regard de Méduse est retournée par Persée contre d'autres ennemis. Méduse est aussi le témoignage, alors ça aussi c'est une lecture moderne, hein, sur une lecture actuelle, c'est le témoignage donc de ce que peut faire le viol à la féminité, la marginalisation, la mort sociale, hein, et la puissance de fascination qu'exerce cette femme qui du coup est recluse, figure de sorcière au sens large, femme recluse, donc sans domination masculine, et qu'on n'arrive même pas à regarder en face. C'est bien ce qui se joue dans ce regard qui pétrifie. Et donc là à nouveau la victoire de l'ordre social, c'est qu'on coupe la tête à ces femmes-là. Hein. C'est quand même la fin de cette histoire-là. Il y a d'autres figures qui sont reliées aux Gorgones, comme Chrysaor, par exemple. Chrysaor, qui est un homme en or, c'est ce que veut dire son nom, qui est une figure très positive, très lumineuse, et qui sort du coup de Gorgone au moment de sa décapitation. Donc, les choses sont pour le moins complexes. Et ce côté lumineux de l'élément aquatique renvoie aussi justement à une façon de nommer et les monstres marins et la mer elle-même. La mer est brillante, donc il y a cette fascination, cette répulsion qu'on voyait déjà dans les divinités cosmogoniques liées à l'élément aquatique et qu'on retrouve chez ces monstres même au moment de leur mort en fait. Le jaillissement est un thème, comme on le disait pour Pélias tout à l'heure, hein. Cette eau qui jaillit ou ce chrysaor qui sort de la tête coupée, ce jaillissement fascine. Donc, il y a une dimension de répulsion, et puis il y a une dimension de fascination. Bon, comme souvent, les deux vont de pair.
Oui, oui. J'ai l'impression, en tout cas, dans l'iconographie, dans les représentations qu'on connaît, les monstres dont tu parles, océaniques, sont plutôt du côté du féminin.
Alors, oui. Ça pose la question, effectivement, du genre de la mer. Hein. Alors, l'élément liquide est très marqué par le genre féminin, dans la mythologie grecque en général, et pas seulement. Les figures masculines que l'on y trouve s'articulent parfois mal avec cette dimension féminine. Poséidon, on en a parlé, il est à l'interface. Okeanos, il est à l'extérieur. Et donc, la mer sur laquelle on navigue et ce qui s'y trouve renvoie à une dimension au genre féminin. Bachelard botte un peu en touche dans son livre sur l'eau, hein, sur cette question. Ben, on sent qu'il est gêné par cette question. Mais oui, il y a une dimension féminine de l'eau. Alors, je vais répondre en faisant un détour par la philosophie d'Empédocle, par exemple. Empédocle, il considère que le monde, bon, est une sphère, Sphairos, composé de quatre éléments qui tous deux sont issus donc d'un principe qu'on peut dire masculin et féminin qui est l'amour et la haine. De ce point de vue, l'eau, dans la philosophie d'Empédocle, et c'est l'élément le plus émouvant en quelque sorte, parce que donc Nestis, alors le terme de Nestis, il est compliqué à expliciter, certains ils disent, bon voilà, c'est le nom divinisé de l'eau chez Empédocle, bon, restons-en là à la limite. Les larmes de Nestis apitoient, et c'est ce qui permet aux hommes de boire, de s'abreuver. Et c'est quelque chose que l'on retrouve aussi au Proche-Orient, hein, avec les larmes de Tiamat, qui sont le Tigre et l'Euphrate. J'ai lu parfois dans des commentaires modernes que c'était la notion de Caire. Bon, moi je veux bien, pourquoi pas. Moi il me semble que ça rabaisse un peu, c'est comme Parthénogenèse, je pense que ça rabaisse un petit peu l'idée. C'est plutôt, je dirais, la figure maternelle, nourricière, que du coup l'élément liquide partage aussi avec la terre, là encore. Hein. Exactement. Gestationnelle.
Gestation.
Exactement. Tout à fait.
Parthénogenèse.
Tout à fait.
C'est qu'elle engendre d'elle-même.
Exactement.
Principe masculin.
Exactement.
Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui peut sembler
monstrueux
ou dérangeant.
Voilà. Bah, c'est
le patriarcat.
Ouais. Bah, tout à fait. Tout à fait. C'est le cas d'Aphrodite aussi. Hein. Qui est le mari d'Aphrodite? Est-ce que c'est son époux légitime? Est-ce que c'est son amant? Est-ce que ce sont les jeunes hommes que parfois elle se plaît à pourchasser? Ce sont des figures de femmes libres, nées de l'eau. Et ce sont quand même des figures qui ont pris corps dans ces sociétés dites patriarcales. Elles le sont, hein, mais je veux dire, c'est intéressant de voir que ces figures existent quand même.
Oui.
Et donc questionnent cet ordre. Enfin, c'est toute cette tension entre le mythe et la norme, quoi.
Et tu nous as dit que Pontos et Okeanos étaient des monstres, mais alors, bon, c'est peut-être...
Okeanos, c'est pas un monstre. Okeanos est un titan. Ouais.
Ah, Okeanos, et Pontos est un monstre. Oui. Est-ce qu'il est représenté comme quelque chose qui tire du côté du monstrueux, de l'hybride, de l'animal? Parce que bon, on est très familier des représentations de Méduse, de Charybde et de Scylla, qui, dans leur représentation, sont monstrueuses et répulsives du fait d'avoir des tentacules sur la tête, du fait d'avoir un nombre de membres, voilà, et puis d'être du côté, pour certaines, de la dévoration, du danger. Est-ce qu'il y a ça chez Pontos ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui reste associé à ces puissances qu'on a arrangées du côté de la féminité, de déesse plutôt que de... Enfin, de divinité féminine, disons, plutôt que masculine.
On n'a pas de représentation iconographique, à ma connaissance, de Pontos en monstre, selon les caractéristiques, disons, chimériques des monstres, à savoir multiplication des membres, etc. Donc, c'est plus cosmogonique. C'est comme Uranos, hein, le ciel. Ce sont des entités primordiales. Je pense que c'est plus du côté, tu sais, de ce qu'on peut trouver chez Lovecraft, qui est une culture classique, hein, qui a clairement façonné son imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, on les décrit pas.
Oui.
On ne les décrit pas, ils sont trop monstrueux.
Oui.
Et ce serait peut-être même un affaiblissement quoi, de les décrire. Oui. Donc leurs épigones, là, chimères, gorgones, on peut les décrire, mais ces grands anciens, pour reprendre le vocabulaire lovecraftien, on ne les décrit pas. Ensuite, Pontos, c'est la mère qui fait peur. C'est paradoxalement aussi, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la mère inféconde, c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas une figure de mère maternante. Et donc, oui, elle fait peur, en fait. Hein. Je pense que c'est sa caractéristique principale.
Parce qu'elle est déchaînée et tumultueuse.
Voilà, c'est le flot. C'est le flot déchaîné, c'est la mer des naufrages, etc. Pontos Euxeinos, d'ailleurs, le pontoxin, donc c'est Euxeinos, hein, c'est favorable, qui accueille. C'est oxymorique, les Grecs adorent faire ça. Quoi. C'est pour l'amadouer, en fait. On dit, ah, c'est la mer accueillante, parce qu'en fait, elle fait très peur. Donc, parce qu'en plus, c'est pas la Méditerranée, c'est une mer que les Grecs connaissent moins, ils s'y aventurent dans le contexte colonial, mais c'est une mer froide, sombre, qui fait peur, ouais.
Alors, tu fais la transition avec la dernière question qu'on souhaitait te poser pour aujourd'hui. C'est par rapport à la couleur de la mer. Bon, on a beaucoup discuté de ça lorsqu'on a introduit notre choix de nommer notre séminaire et ce podcast Seymour Blue. Bon, ben, c'est un peu l'éternelle question. De quelle couleur la mer est-elle? Est-ce que tu peux nous parler de la couleur emblématique de la mer ou des couleurs du point de vue des Grecs?
Oui, alors évidemment, c'est une question qui a été très débattue. C'est un peu une question emblématique hein, du rapport des études, des classiques vis-à-vis de la mer. Il y a des citations fameuses. J'en avais apporté une, si vous me le permettez. Donc, c'est de Nietzsche, hein, Morgenröte, l'aube. Je trouve que ça résume assez bien la façon dont, à une époque, on pouvait poser le problème. Combien les Grecs voyaient la nature si différemment? Donc, en plus, il parle d'abord de la nature. Hein, mm-hmm. Si, comme il faut bien se l'avouer, leur œil était aveugle au bleu et au vert, et s'ils voyaient un marron plus profond à la place du bleu et un jaune à la place du vert, si donc ils désignaient par un même mot la couleur d'une chevelure sombre, celle du bleuet et de la mer méridionale, par exemple, Ou encore, toujours par un même mot, la couleur des plantes les plus vertes et de la peau humaine, du miel et des résines jaunes. Si bien que, comme c'est attesté, leurs plus grands peintres n'ont représenté leur univers qu'avec du noir, du blanc, du rouge et du jaune. Comme la nature devait leur sembler différente et, ça c'est le point de Nietzsche, et plus proche de l'homme, puisque pour leur œil, les couleurs humaines prédominaient également dans la nature, et que celles-ci baignaient, pour ainsi dire, dans l'éther des couleurs de l'humanité. Et là, c'est dur pour l'éco-critique, ce qui termine, ça c'est le bleu et le vert déshumanisent la nature plus que toute autre couleur. Ah, il faut faire avec cette citation. Alors, en fait, il y a en quelque sorte des contresens. Alors, Adeline Grand-Clément, qui a produit un article dans la revue Palace et qui reprend cette citation, elle montre à quel point c'est la façon dont, disons, fin 19e, début 20e, on pose la question, puisqu'on s'intéresse au chromatisme universel, etc. Nietzsche, ici, ce qu'il veut montrer, c'est que les Grecs étaient plus proches de la nature et que nous, on a perdu cela, puisqu'ils utilisent, en fait, des sortes de métaphores de couleurs corporelles qu'ils projettent sur le monde. Et c'est un peu ce que Durkheim et Mauss proposent lorsqu'ils disent que les sociétés premières, en fait, elles projettent leur structure sociale et mentale dans l'univers. Bon. Après, il y a de vrais contresens, comme le fait que leur univers avec noir, blanc, rouge, jaune, non, ça c'est une citation de Pline mal comprise, en fait c'est la palette, mais après il y a tout, on peut mélanger en fait ces couleurs entre elles. Donc, bon. Ça c'est une manière pour commencer de répondre à la question, et puis ensuite la deuxième manière, je dirais qu'il faut prendre du grec. Je prends une citation en fait tirée de la pièce Hélène d'Euripide. « Venez enfin, vous aussi Tindarie, dirigeant par l'éther les pas de vos coursiers, parmi les feux tournoyants des étoiles. Vous qui demeurez aux cieux, descendez, vous sauveur d'Hélène. » Donc on part du clair du ciel et on va arriver vers les couleurs de la mer justement. Alors comment on va traduire ça? D'abord je le mets en grec. « Glaucon epit oidma kuanokroa te » Cumatone, Rotia, Polia, Thalassas. Donc Thalassas, c'est bien la mer. Alors comment est-elle cette mer? Elle est glaucos. Glauque. Donc certainement, on en avait parlé d'ailleurs. Alors on va dire bleu vert, la houle bleu vert. Oidma, cuanocroa, te cumatone. Le déferlement gris bleuté des vagues de la mer. Bon. Alors on a du vert et du bleu si on veut. On a du gris. On a du noir, qui revient souvent, la mer sombre. Et puis on a cet aspect brillant en fait, qui n'est pas une couleur mais qui est un chatoiement, donc qui est le glauque. Alors il y a aussi d'autres termes qu'on trouve chez Homère. Ah oui. Donc là je remonte encore en arrière. Il y a oinops, donc de oinos le vin, donc vineuse ou semblable au vin. Ioaides, semblable à violette. Clément Barranger en a parlé. Donc là, c'est peut-être pas seulement une question de couleur, mais de forme. Ourler, ourler, bon, voilà. Donc là, je vais peut-être solliciter effectivement une synesthésie pour comprendre ce que veulent dire ces termes-là. Porphyréos, donc pourpre, porphyre. Et là encore, il y a l'idée d'éclatant et puis de précieux. Et à l'inverse, bah, mélasse, mélaïnès, donc noir, la mélasse, noir. Polios, gris. Et donc, ce qu'on traduit par cyan, cuaneos, cuanea en féminin, donc sombre. On peut avoir aussi chloros, qui a donné le chlore. Voilà. Là, je donne en fait, en gros, le vocabulaire, c'est l'étude lexicale. Et puis après, il y a le commentaire qu'on peut en faire. Alors, il y a d'abord un chatoiement, ça c'est certain. Il y a toute la palette chromatique qui y passe. Et puis, il y a cette idée de changement. Il y a cette idée de changement, de versatilité, de passage du clair à l'obscur. Et après, il y a toutes les explications, disons, physiques, philosophiques, physiques de cela. Est-ce que c'est le vent qui produit ces changements chromatiques? Est-ce que ce sont les cours d'eau? Est-ce que ce sont les reflets, effectivement, du soleil? Voilà, du phytoplancton. Voilà. Donc, c'est une vaste question. En tout cas, effectivement, les affects, exactement. La symbolique liée à ces couleurs, ça, c'est tout l'intérêt, je dirais, de l'article d'Aline Grand-Clément, qu'il faut renvoyer sur ces questions, absolument. Et puis, donc le livre là que j'avais apporté de Marie-Claire Beaulieu qui reprend ce dossier, The Sea in the Greek Imagination, il y a un chapitre consacré justement à ces imaginaires marins du point de vue de la couleur. Et effectivement, comme tu le dis, voilà, il y a cette dimension d'affect, de symbolique en fait, de symbolique aussi, comme dans le Tsing chinois, c'est-à-dire ça veut dire vert bleu, mais ça veut dire aussi printemps, ça veut dire bois, ça veut dire est. Donc forcément, ça amène tout un imaginaire. En fait, la couleur en elle-même seule ne veut rien dire. Comme une divinité seule ne veut rien dire, il faut l'intégrer dans un panthéon, c'est la grande leçon de Jean-Pierre Vernant. Bah ici, c'est pareil, une couleur seule ne veut rien dire, il faut la resituer dans un imaginaire général. Voilà.
Ce qui est très intéressant, c'est la question de synesthésie, parce que c'est vrai qu'en entendant certains termes, j'ai presque l'impression de sentir l'eau, ou de sentir même sa température, et c'est ça qui est assez chouette. Il y a la question du toucher aussi, je trouve, et de la sensation de l'eau sur soi qui est convoquée.
Mais donc, éclaire-nous quand même, est-ce qu'on comprend bien que dans les textes grecs, il n'y a jamais la couleur ni bleue ni verte pour décrire aucune mer, aucun océan, c'est ça ?
Bah, le cyan, le Cuanéo, c'est du bleu sombre, quoi. Voilà. Oui. Si on veut vraiment le chercher, c'est là qu'il faudra aller voir, vers le côté bleu sombre. Après, bon, ça c'est le vocabulaire. Il y a aussi, il y a une polychromie conservée. Hein. La tombe du plongeur de Paestum, il plonge, c'est une sorte de plongeon symbolique, mais il plonge dans l'eau quand même. Et il y a une sorte de protubérance comme ça, qui est coloriée en bleu très foncé. Donc c'est quand même du bleu, c'est du cyan, voilà. Donc et c'est la représentation de la mer a priori. Ouais.
Oui, et ils avaient bien des mots pour renvoyer toutes les nuances de bleu et de vert qui apparaissaient par ailleurs dans leurs poèmes quand ils décrivaient autre chose que la mer.
Bah oui et non, c'est vraiment oui et non. Le bleu et le vert, en fait, on peut pas les traduire tels quels. C'est comme nature, en fait. Hein. Bien sûr qu'ils savent ce que c'est, ce que nous appelons la nature, le bleu, le vert. Et bon, sans vouloir totalement botter en touche, hein, mais ça fait partie des concepts qui nous semblent très clairs. La nature, le bleu, et mettons, je sais pas, l'amour. En fait, difficile de traduire amour en grec. Hein. Est-ce que c'est eros? Est-ce que c'est philia? Est-ce que c'est... Hein. Et ben, pour bleu et vert, c'est pareil. La Thalassa Cuanéa, là, elle est, on peut dire que c'est la mer bleue, si on veut. Hein, bleu sombre, voilà. Mais, un peu comme le disait Nietzsche, c'est une couleur qu'on rattache à des émotions humaines.
Là, et c'est vraiment une question intéressante, parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne peut pas penser à la mer Méditerranée, la première chose qui nous vient, et on ne peut pas être devant la mer en Méditerranée, hormis, bon, peut-être quand il fait très, très mauvais, très gris, ou durant des tempêtes ou la nuit, mais l'eau, on ne peut pas l'avoir autrement que bleu, vert, émeraude, indigo, tout ce que tu veux. Ça me fait penser à, il me semble que c'est Anne Sibrand, donc romancière, ethnologue, etc., de formation, qui expliquait que, donc elle a appris le quechua, elle, lors de sa formation à l'INALCO, et que lorsqu'elle a séjourné beaucoup avec des peuples premiers, notamment dans la région en Équateur, où il y a des locuteurs natifs de quechua, qu'en quechua, si je me souviens bien, la couleur bleue n'existe pas.
Okay.
Et qu'il y a une sorte de moment... qui a bouleversé la vision du monde, en fait, de ces locuteurs du quechua. C'est le moment où les enfants qui, à l'école, apprenaient l'espagnol, et ils ont appris azul.
D'accord.
Et là, les enfants sont rentrés à la maison et leur a parlé d'une couleur qui, pour eux et elles, n'existait pas.
Mmh. Ouais.
Et donc, chez eux, si j'ai bien compris, l'eau, quand elle tire du côté du bleu, ben, en fait, elle serait plutôt verte, et le ciel serait plutôt du côté de ce que eux, en quechua, alors bon, je ne connais pas les termes, c'est intéressant de revenir un petit peu. Mais ça pose même la question de la capacité à percevoir quelque chose qu'on ne sait pas nommer. Et si on nomme ce que nous, par exemple, on nomme du bleu, bon, c'est bien que le bleu et le vert, hein, souvent, c'est, voilà, on hésite. Mais comment voit-on que voit-on ce que nous, nous appelons bleu? Comment les voient-ils avec leurs yeux? Voilà, ce que nous, on ne peut pas s'empêcher de voir du bleu, du vert. Et c'est vrai qu'en termes même de résonance affective, il y a des mondes qui nous séparent dans notre rapport à cette couleur.
Je pense que c'est vraiment l'intérêt, voilà, de se confronter... pas seulement aux Grecs, mais à d'autres cultures. On a un effet de décentrement. On est obligé de questionner nos catégories, nos implicites. Mais on n'en ressort pas. Voilà, là, on n'en ressort pas avec de plus grande certitude, au contraire.
Mais non. Et c'est drôle.
Mais c'est peut-être pas plus mal. Hein.
Voilà. Et ce séminaire, et le fameux séminaire auquel est rattaché ce podcast, et ce podcast s'intitule See More Blue. On joue sur des mots, on fait des choses un petit peu troubles du point de vue de la grammaire. Ça veut rien dire quand même.
C'est
See More Blue. Donc il s'agirait de bleuir notre regard. Mais en fait, plus on travaille à bleuir notre regard, plus on trouble la couleur qu'on pensait bleue de la mer et de l'océan.
Donc si on m'avait appelé Seymour Glauque, ça aurait été
marrant. Voilà, Seymour Glauque, c'est un petit peu moins catchy, voilà. Comme on se dit.
Voilà.
Oui.
D'ailleurs, est-ce qu'on sait pourquoi le mot glauque est vu sous un prisme aussi négatif aujourd'hui?
Je pense que c'est la dimension trouble. La dimension trouble au sens on ne voit pas à travers, un peu marécageuse. Cette dimension-là, je pense qu'il a... Mais ça, c'est vraiment un glissement de sens. Ça, c'est le travail de la langue. Hein, mais Athéna glaucopis, Athéna au regard glauque, ça ne veut pas dire qu'elle a un... On peut pas lui mettre... Au contraire, c'est pas possible. C'est vraiment... C'est le regard brillant de la chouette dans la nuit. Donc,
Et glaucos, c'est également une divinité.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de ces, disons, de ces concepts divinisés. Et puis de ce qu'on appelle les noms, c'est des théonymes. C'est-à-dire qu'il y a des personnages historiques qui s'appellent glaucos. Hein. C'est un nom assez commun, par ailleurs, glaucos.
Non. Eh bien, on va terminer là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Ah, merci à vous, c'était un plaisir.
Ouais,
merci beaucoup.
Merci Valentine, merci Goulven pour l'appui à la technique.
Merci beaucoup.
C'était donc le deuxième épisode du podcast Simul Brew, consacré à la mer, l'océan, l'eau chez les Grecs, et pour lequel nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui William Pilot, maître de conférence à l'Université d'Angers et qui est aussi le co-porteur du séminaire de recherche Simul Brew.
Simul Brew.
Ce podcast est enregistré avec le soutien de et dans les locaux de la MSH Ange Guépin à Nantes grâce à l'appui pour la technique de Goulven Labatte. Il est également soutenu par l'UA, l'Université d'Angers, et il est rattaché au séminaire de recherche interdisciplinaire Seymour Blue et dont les co-porteureuses Béné Meillon, moi-même donc, et William Pilot appartiennent au laboratoire Le Trois Lames et l'UMR Témos. Pour plus de renseignements sur notre séminaire, ses objectifs, ses activités de recherche, ses nombreux partenaires scientifiques et soutiens financiers à Angers, Nantes et ailleurs, rendez-vous sur le site écopoétique hypothèse.org où vous trouverez un onglet Seymour Blue assorti d'un menu déroulant qui vous permettra de naviguer en ligne et de prendre le large avec nous vers des imaginaires plus bleus. On vous souhaite du bon vent dans les voiles ou de prendre une bonne respiration pour plonger avec nous sous la surface de l'océan et dans des mondes aquatiques.